2 rois 5, 1, 19. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez. Comprenez-le. Il cherche une occasion de discuter avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Tu me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérirait ma lèpre. Les fleuves du Damas, la Banna et le Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partit plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour le guérir. Ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lâche-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2000 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour se prosterner, il s'appuie sur ma main et je me prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit, « Pars dans la paix. »
Bien que je suis fan de foot, si j'ai choisi ce passage, ce n'est pas parce qu'il se trouve à la page 442, les experts de foot comprendront. Il y a quelques semaines, nous regardions à une femme remarquable, la femme syrophénicienne, cette femme qui se jette aux pieds de Jésus et lui demande les miettes du royaume. Je vous confiais que cette femme était pour moi l'un des plus beaux exemples de foi dans le Nouveau Testament. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à regarder ce qui est, à mon avis, le plus bel exemple de foi rapporté dans l'Ancien Testament. Il s'agit encore d'une femme, ou plus précisément d'une enfant. Là encore, nous ne connaissons même pas son nom. Vous n'avez peut-être même pas noté sa présence dans ces versets. jeune servante, la servante de la femme de Naomi. Parce que ce passage est d'une richesse profonde. Nous ne pourrons ce soir regarder à tous les éléments du texte. Il serait possible de parler de la patience et de la grâce de Dieu. Il serait possible de regarder à l'attitude de Naomi, attitude qui est peut-être la nôtre parfois. Il y a également beaucoup à apprendre de l'attitude d'Élisée. Mais ce soir, nous allons regarder à l'attitude de la jeune servante. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette servante. Et nous ne savons même pas son nom. Verset 2, les Syriens avaient mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naomi. Voici ce que nous savons à son sujet. C'est une très jeune Israélite qui avait été déportée et qui se retrouve maintenant au service de la femme de Naomi. Le texte dit, le texte hébreu dit, une très jeune femme, une enfant. Le mot utilisé en hébreu est un mot habituellement utilisé pour les filles de 13 ans ou moins. Un enfant. Et le texte, en fait, nous en dit plus au sujet de Naomi, son maître, à son sujet, un Naaman, général en chef de l'armée du roi de Syrie, le chef de l'armée syrienne. Et en plus d'avoir un poste important, le texte nous montre que c'est un proche du roi. C'est lui qui avait l'honneur d'accompagner le roi au temple du dieu Rimmon et de l'aider à se prosterner devant lui. Seul ombre au tableau, cet homme a attrapé la lèpre. À l'époque, il n'y avait pas de traitement possible. La lèpre était synonyme de rejet, puis de mort. Cette jeune servante est au service de la femme d'un homme respecté, mais nouveau. Voilà pour le contexte. Il ne pouvait être plus hostile pour elle. Ce devait être particulièrement difficile pour cette femme. Mettons-nous à sa place. Une jeune fille qui a été kidnappée, qui est amenée dans un pays loin de ses parents et de ses proches pour être mise au service du général de cette même armée qui vous a amenée en captivité. Elle est au service de l'ennemi. Au service de l'ennemi. Comment réagirions-nous dans ce genre de situation? La tentation serait d'être remplie de haine et de colère. Colère contre Dieu et contre les hommes. Tentation de chercher à nous échapper. Tentation de souhaiter le mal de nos premiers ennemis. Nous nous attendrions à ce que cette servante se réjouisse de ce que son ennemi meure d'une mort longue et douloureuse. Nous nous attendrions à une phrase comme « Bien fait pour toi ». Voilà ce qui arrive lorsqu'on touche aux enfants de Dieu. Toi qui es ennemi de Dieu, que ta mort soit lente et douloureuse. Ce n'est pas ainsi que l'on a dit. Au contraire, à cette fois, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Rempli de haine et de colère, non? Mais cela est surprenant. À la nouvelle de la maladie de son ennemi, elle ne répondit pas par la haine ou par la vengeance. Parce qu'elle aime Naomi et sa famille. Ce qui est remarquable avec cette jeune servante, c'est qu'elle ne se laisse pas guider par son contexte. Son comportement n'est pas lié à la situation dans laquelle elle se trouve. Elle ne se réjouit pas de la maladie de Naomi. Mais elle fait preuve de compassion pour lui. Elle souhaite qu'il guérisse. Cette jeune fille arrive à appliquer ce que le plus grand roi d'Israël annoncera des centaines d'années plus tard. Jésus-Christ, en Matthieu 5, versets 43 à 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme les accusés. Cette jeune fille arrive à choisir de répondre non par un sentiment de nationalisme ou de vengeance personnelle, mais par la compassion. Enfin, c'est un choix qu'elle fait. Elle choisit la compassion au lieu de la haine. Dire j'aime mes ennemis et arriver à le vivre, c'est quelque chose de bien différent. Mais c'est ce qu'elle fait. Elle regarde à Naaman non pas avec un regard humain, une perspective uniquement humaine, mais elle regarde à lui avec le regard tourné vers son Dieu. Et ne nous trompons pas. Ce qui permet à cette servante de réagir ainsi, c'est sa foi en Dieu. Sa foi en Dieu. Peut-être a-t-elle compris pour elle cette phrase formulée, cette promesse formulée à Abraham en Genèse 22, 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Elle souhaite pour Naaman le bien. Elle souhaite pour lui la vie, mais pas la mort. Elle souhaite que Naaman ne soit pas maudit, mais qu'il soit béni au travers elle. Au travers elle. Et c'est ce qui arrivera d'ailleurs. Dans l'adversité. Réagissons-nous de la même manière. Nous comprenons nous comme étant des outils de bénédiction pour les nations, des canaux de la grâce. Elle souhaite le bien de son maître. Voilà sa mission. Souhaiter le bien de son ennemi. Et parce qu'elle souhaite cela, parce qu'elle est en mission, rien ne l'arrête. Elle ne laisse pas son manque de statut social être un frein. Elle aurait pu se dire, qui suis-je pour donner des conseils à Naaman, mon maître? Non, ce n'est pas ce qu'elle fait. Oui, je suis étrangère, une femme, dans une société patriarcale où la femme n'avait pas sa place, une servante. Et en plus, je suis encore considérée comme étant une enfant. Mais je ne laisserai pas cela être un frein parce que je souhaite le bien de Naaman. Dieu me charge de cette mission. La foi de cette jeune servante est merveilleuse. Alors, c'est vraiment une foi en Dieu qu'elle a. Ce n'est pas seulement des bons sentiments, mais c'est sa foi qui la pousse à témoigner. Elle aurait pu être en colère contre Dieu. Après tout, s'il est Dieu, n'aurait-il pas pu faire en sorte qu'elle ne soit pas déportée loin de sa famille? Elle aurait pu perdre sa foi en Dieu. S'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant, comment se fait-il que le peuple qui adore un autre Dieu ait pu battre Israël? Le Dieu Rimmon ne serait-il pas plus puissant que l'Éternel? Non. Elle n'est pas en colère contre Dieu. Elle n'a pas perdu sa foi en lui. Elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Quelle confiance en Dieu! Elle sait que Dieu peut guérir Naaman. Et elle sait vers qui envoyer Naaman. Il doit aller vers ce prophète de l'Éternel nommé Élisée. Relisons les versets 4 à 7. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. La foi de cette jeune servante est d'autant plus remarquable que le roi d'Israël, lui, ne sait pas ce qu'il convient de faire. Naaman arrive avec de l'argent, une lettre du roi de Syrie pour qu'il le guérisse. Et le roi ne sait pas ce qu'il doit faire. Je suis un homme mort. Il cherche à me créer des problèmes. Je sais bien que l'on ne peut pas guérir de la lèpre. Le roi ne sait pas ce qu'il peut faire. Et si vous lisez les deux livres, roi, vous verrez la place étonnamment importante qu'il les servants. Donc pour un livre qui s'appelle « Livre des rois », la place donnée aux servants. C'est remarquable, c'est le cas ici avec les autres servants qui vont convaincre l'âme d'aller dans la journée. Le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu n'a pas le réflexe de se tourner vers son Dieu. Et celle qui avait toutes les raisons de ne pas se tourner vers Dieu se tourne vers son Dieu. La foi de cet enfant est remarquable. En parlant à sa maîtresse, la femme de Naaman, elle prend un risque. Mais que se passera-t-il si Dieu ne guérit pas Naaman? Parfois, Dieu ne répond pas à nos prières comme nous le souhaiterions. Parfois, Dieu guérit. Parfois, il ne guérit pas. Quelle sera la réaction de Naaman envers moi s'il part jusqu'en Israël et qu'il n'est pas guéri? L'assurance de cette servante est remarquable. Peut-être se souvient-elle de la résurrection du fils de la Tsunamite rapportée au chapitre précédent, un enfant qui était tombé malade, un enfant qui était tombé malade puis qui est mort. Mais Dieu ressuscita cet enfant au travers de son serviteur Élisée. Cette servante a de l'audace. Elle met sa confiance en Dieu. Elle sait qu'il peut guérir Naaman de sa maladie incurable. Mais elle a vraiment de l'audace. Osons-nous parler à Dieu avec la même audace, avec la même assurance qu'elle? Un exemple de fier audacieuse. Je relisais tout récemment Actes chapitre 4, où j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué précédemment. Dans ce chapitre, on trouve la première prière, si je peux dire, des chrétiens, le premier chrétien qui, pour la première fois, nous a apporté Dieu. Que demande-t-il à Dieu? D'avoir de l'audace. Avoir assez d'audace pour demander à Dieu des choses impossibles. Ou entre autres, des guérisons miraculeuses. Maintenant, Seigneur, acte 4, maintenant, Seigneur, vois comment il nous menace. Donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, littéralement, une pleine audace. L'audace. L'assurance pleine de Dieu. Un des éléments caractéristiques de la jeune Église dans le livre des Actes est justement l'audace. À 10 reprises dans le livre des Actes, il est fait mention de cette audace des premiers chrétiens. Cette audace de l'Évangile, cette pleine assurance en Dieu, la servante en était remplie. Elle met sa confiance en Dieu et remplie d'audace, elle annonce à Naaman que rien n'est impossible à son Dieu. Cette prière que formulent les apôtres en acte 4, cette servante la disait. C'est de l'audace pour elle d'aller annoncer à son maître qu'elle connaît un ennemi qui pourrait le guérir. C'est comme si un prisonnier de guerre américain annonçait à Poutine que le seul qui pourrait guérir son chef des armées est un médecin américain. Au début, j'ai prévu faire avec Kim Jong-un, mais vu ce qui se passe, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, voilà. Il en faut de l'audace pour annoncer un tel message. Et je suis frappé de voir que cette jeune servante est crédible. Elle est crédible. Il devait y avoir quelque chose d'une confiance communicative à son sujet. Je suis persuadé que dans son travail, dans son témoignage, elle était telle que lorsqu'elle prend la parole, ses interlocuteurs savaient qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. Oui, parce qu'elle le dit, la femme de ma mère qui nous aime, pourquoi est-ce que ça? Je prie que nous arrivions à avoir un tel témoignage. L'audace de cette jeune servante porte du fruit. Parce qu'après avoir parlé à la femme de Naaman, celle-ci en parla à son mari, qui lui-même alla en parler au roi, qui lui donna tout ce dont il avait besoin pour pouvoir payer. Verset 8, Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos, et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit à mon père, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant. L'histoire de cette jeune servante s'arrête ici. Nous n'entendrons que par le vent. Lorsque nous lisons ce récit, il serait presque facile de ne pas remarquer cette servante, tant son rôle paraît limité dans l'histoire. Une phrase. Une phrase. Mais pourtant, c'est elle qui est l'élément déclencheur de la conversion de Naaman. Elle a fait ce à quoi Dieu l'a fait. Elle a rendu témoignage. Alors je sais que son témoignage ne s'arrêtait pas à cette seule phrase. Et si sa phrase a été acceptée, je pense que c'est la conséquence d'une vie menée à la gloire de Dieu. Et je ne doute pas qu'elle a prié pour Naaman. Mais cette servante a fait tout ce qu'elle devait. Faire tout pour le bien des autres. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Ne nous trompons pas, Dieu ne nous demande pas de guérir des personnes de la lèpre ou de cancer. Si tel est le cas, nous serions obligés de réagir comme le roi d'Israël et affirmer que cela nous est impossible. Et Dieu nous demande de faire notre part. Dieu nous demande de mener une vie de louange et d'évangile. Et Dieu nous demande d'avoir de l'audace de croire en lui. L'audace de croire que rien ne lui est impossible. Dieu nous demande de faire notre part. Cette jeune servante n'est pas la seule impliquée dans la conversion de Naaman. Il y a tout d'abord sa femme, il y a le roi Thyrie, il y a Élisée, et il y a ce serviteur qui va convaincre Naaman d'essayer ce qu'Élisée lui disait de faire. La servante a fait sa part. Dieu a fait la grâce. Dieu nous appelle à être ses témoins sur la terre. Je prie que nous arrivions à être remplis de cette pleine assurance en lui. Je prie que nous arrivions à sauter sur chaque occasion qu'il nous donne pour parler de lui. Je prie que nous arrivions toujours plus à une meilleure connaissance et compréhension de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je prie que nous soyons transformés à son image. Comme cette jeune servante, Jésus est quelqu'un qui a aimé ses ennemis. Christ est quelqu'un qui n'a pas reculé devant sa mission. Christ est quelqu'un qui n'a pas regardé à son statut, au statut des autres, mais qui a aimé au point de s'offrir en sacrifice pour ses ennemis. Cette jeune servante suivait l'exemple de Christ sans même le connaître. Nous qui avons ce privilège énorme de le connaître, que nous ayons à cœur de suivre son exemple. Nous sommes aujourd'hui en mission pour Dieu. Nous sommes en mission. Fixons les yeux sur le Christ et soyons ses témoins. Pour qu'un grand nombre puisse admettre comme Naaman, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre.